On va accueillir tout de suite Hassan Ziani. C'est un auteur, mais c'est un artiste. Les autres aussi.
Bonsoir Azul.
Oui, comme il disait, bon, en d'autres temps, quand je monte au micro à Montréal, généralement c'est avec ça ou quelque chose qui ressemble. Aujourd'hui, je vais faire différent. Ou alors je lirai des poèmes chantés par Idfelaoun ou Nouara, mais je les ai regroupés dans un livre, Tidj Djigin Wawel, qui a bien circulé en Kabylie. À dire ça va, on va se contenter de ça. Vous allez voir combien je suis versatile. J'ai préparé aussi un passage à vous lire de ce livre, L'énigme, mais il est exposé ici. Il est réédité en Algérie, puis plusieurs journaux en ont parlé. Je me suis dit que ça suffit aussi, là. Et puis, mon éditeur d'Alger m'a demandé d'écrire une préface pour Albert Camus. On devait éditer ces articles d'Algérie publicain écrits dans les années 38-39. Puis là, quelqu'un m'a persuadé que ce n'est pas encore sorti, donc on va le mettre de côté. Bon. Comme j'ai horreur du laisser pour compte, j'avais écrit un premier livre que j'ai fait à compte d'auteur. Ben, qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, j'ai dit, bon, on va faire allusion à ça, tiens. Et puis là, j'ai choisi un poème qui est un peu tout cru, qu'on appelle L'Hirondelle. Donc, il est dans ce livre, Le Soupir, dans le chapitre L'Exil. Alors, comme une petite hirondelle, à chaque saison va-et-vient, elle replie et se rebelle, point de terre qui lui convient. Chez nous, on meurt comme des mouches. C'est la ruée vers l'asile. Et cet l'hiver effarouche, dans la neige et le grésil, oui, c'est platant, tabarnouche, c'est ça l'affaire de l'exil. Souvent, je me casse la tête pourquoi j'ai fui à Alger. J'étais cadre en tabarouette et j'ai choisi l'étranger. Et cet, je lave les assiettes pour gagner de quoi manger. Ah, Trouillard, tu nous as quittés pour une vie bien meilleure. T'as pas de poignet pour lutter, tu seras toujours courailleur. Et cette l'hostie d'emporter est cause de tous les malheurs. Je pitche des CV en masse. Chaque jour, je me suis défié. J'ai été à ben des places pour les suivre et vérifier. On me garoche à la face, mais vous êtes surqualifié. Souvent, je me suis fait dire ce genre de petite bébelle. Oui, avec un beau sourire qui paye pas hydro et belle, et c'est ça qui fait souffrir notre petite hirondelle. Je vous remercie, je ne serai pas plus long, on va laisser la parole aux autres.
Merci, Hassan Ziani, merci pour ce moment très très vivant. D'ailleurs, si vous voulez réécouter toutes ces interventions, ce sera possible dès demain sur le site internet. Double, pas demain? Pas demain. Bon, dans quelques jours, hein, bah, 2, 3, 4 jours, une semaine, le mois prochain, si vous voulez. Sur radio, l'Hirondelle prochaine. Enfin, quand on veut. Ce sera sur internet, sur le site Radio Spirale. Voilà, vous pourrez réécouter tout cela. Quand vous le souhaiterez, quand ce sera disponible, hein, bien sûr. Alors, tout de suite, on retourne, si vous voulez, hein, au Maroc pour. Ah, non, je vais rien dire, là, je vais rien dire parce que vous allez voir. Raja El Ouadili, qui vient du Maroc, donc, et qui va raconter. Alors, écoutez, je dis rien d'autre.
Écoute, je suis l'avant-dernière, puis je vous remercie pour le souffle lent. Donc, je vais essayer d'être brève, mais je vais prendre aussi mon espace. La Vierge dans la Cité, c'est mon premier recueil de nouvelles. Okay. La Vierge dans la Cité, c'est un recueil de nouvelles qui se lit en fait comme un roman. C'est 21 nouvelles, des portraits de femmes marocaines et de fées musulmanes. Je dépeins. Le sujet de ce recueil est la sensualité, l'essence féminine, le besoin incessant de vouloir croquer dans la vie malgré le chemin, comment dire, la bienséance sociale qui veut que la femme obéit à un profil de pudeur et de chasteté, mais on ne peut demander au corps de se retenir éternellement en attente d'un mariage. Alors, moi, je suis marocaine, je peux dire québécoise de souche marocaine. Pour plus de présentations, je vous invite de visiter Google. Et vous pouvez apprendre un peu plus sur moi. Ok, alors je pensais lire un passage. Je me suis décidée de lire deux passages et l'introduction qui est un petit poème. Et j'aimerais préciser que le but de cet écrit, c'est les échos de cette éducation chaste sur la psyché des femmes. Le poème. La tulipe porte en elle une tare qu'elle cache si bien avec ses pétales. Juxtaposés les uns aux autres, ils se dressent majestueusement et forment un étau protecteur de cette fragilité. Par cet apparat chatoyant, la tulipe tait sa féminité. Convoitée, elle se laisse butiner par les insectes porteurs de pollen mâle, des violeurs en mission. Ses pétales tombent. Sa nudité est au vu et au su de tout le monde. Personne n'y porte plus attention. Okay. Il importe à Joli Cœur de rassurer son mari. De là où elle vient, les hommes draguent sans vergogne. C'est incrusté dans leur inconscient. La rue leur appartient et la société les cautionne. Et pourtant, elle ne vient pas d'une bourgade. Joli Cœur a grandi dans la grande ville, Casablanca, la métropole où la femme s'est battue pour gagner une marge de liberté, nulle part égalée dans le monde musulman. La promenade à pied dans les rues de Montréal, c'est tout autre chose. Joli Cœur ressent une légèreté qu'elle n'a jamais pu avoir chez elle. Les hommes sourient et passent leur chemin. Un hommage certes tiède, mais rassurant, constate Joli Cœur chaque fois qu'un homme la gratifie de cette délicatesse. Mais là où elle est assise, face au café-terrasse, le confort est sommaire. Le terrain est en pente, s'y allonger pour se reposer ne peut se faire sans être accusé d'atteinte à la pudeur. Ce jour-là, légèrement habillée d'une jupette et les jambes pointant vers la voie passante, Joli Cœur ne peut faire un mouvement sans faire voir ce qui se cache entre ses deux jambes. Ce n'est pas que cela la dérange. Elle en a assez fait au nom de la décence, mais ne veut choquer personne dans une ville dont elle ignore la limite des mœurs et des valeurs. Séduite, elle a même convaincu M. Hood d'envisager de vivre dans un pays où la rigueur des hivers n'a d'égal que la clémence des esprits. Joli Cœur est nostalgique d'une période où les gens pouvaient avoir, aussi bien dans les maisons que dans la rue, le style de vie qu'ils voulaient. Les différences faisaient partie de la couleur locale et tout le monde vivait en harmonie. C'était les années 70, l'époque de la Révolution tranquille. Même au Québec, il y en a eu une. Mais le destin a voulu à ce point culminant de leur révolution que les deux pays puissent suivre des chemins totalement différents. Au Québec, les gens ont fait taire l'Église qui ne cessait de les sermonner sur l'impétuosité de leur faiblesse. La vie terrestre ne doit rien envier à la vie céleste. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Les lunettes, ils datent de 2 mois, là, j'ai des problèmes. Ok. Joli Cœur ne peut que saluer ce pragmatisme de l'esprit. La vie terrestre ne doit rien envier à la vie céleste. Mais là d'où elle vient, la voix des dévots a pris un tel écho qu'elle souffle le froid et le chaud sur la vie des gens. Ne se soumettent à cette orthodoxie religieuse que ceux qui sont déjà morts. Ne cesse de répéter Joli Cœur à M. Hout. Elle en rajoute. Ne t'étonne pas si l'accès au paradis devient une longue liste d'attente. Joli Cœur est tout simplement d'un naturel incorrigible, une vraie impie. Convaincue d'être née du mauvais côté, elle a conjuré M. Hood de réparer ce tort et de prendre les mesures nécessaires pour se déporter de leur propre chef en achetant une nouvelle citoyenneté. Joli Cœur quitte l'ombre de l'arbre qui fait face au café-terrasse et fait le tour du parc pour trouver un endroit plus confortable. Au moment de s'installer, elle voit venir vers elle, torse et pieds nus, un beau rasta. « Do you want me to do you some Reiki ?» demande celui-ci. J'aimerais vous ajouter une autre, pas plus longue. Rien, je ne crois pas que tu vas comprendre grand-chose. D'ailleurs, moi-même, je suis perdue, suppure Mina dans la pénombre de la chambre. Essaye peut-être que je peux t'aider, chuchote Abdou, tout à coup soulagé. Encore une petite gêne que Mina, ma jolie Mina, n'a pas encore su gérer. C'est sérieux, s'est dit Abdou, ne badine pas avec ce que tu ne sais pas, murmure celle-ci, la voix étranglée par l'émotion. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi qui te met dans cet état? Demande Abdou, assis d'un coup sur son saillant. L'un des deux, soit je suis enceinte, soit tu vois ce que je veux dire, lance Mina, maintenant assise au milieu du lit. Quoi? Je ne vois pas vraiment, c'est quoi ça? Bredouille Abdou. Je le sais que trop, bonne nuit, lance Mina, s'allongeant de tout son long, le drap rabattu sur son visage. Tu dois savoir ces choses mieux que moi, c'est à ton âge que ces choses arrivent, plutôt s'en va. C'est mieux dit ainsi, n'est-ce pas? Voilà autrement, c'est dans l'ordre des choses, voyons. Plus de fin de mois, et même Dieu est content, le mois de Ramadan au complet, ce n'est pas rien pour se tailler dès maintenant une place au paradis. C'est ça, réformé, d'aucune utilité, périmé et quoi encore, révoqué, une vie qui s'échine, que Dieu me pardonne, c'est injuste, voilà ce que je porte depuis bientôt 3 mois. Voyons, Mina, remets-toi à Dieu, c'est un blasphème, questionner l'ordre naturel des choses. Et puis, il se peut que ce soit même pas ça. Un simple dérèglement, interroge Mina la voix pâteuse. Oui, répond Abdou. Dans ce cas, c'est ça. Passe un test de grossesse pour t'en assurer, ajoute précautionneusement Abdou. C'est toi qui iras l'acheter, s'il te plaît. J'ai honte à mon âge de faire une telle demande, sanglote Mina, légèrement apaisée d'avoir libéré son angoisse à faire face à la vérité. Voyons, Mina, tu me vois, moi, un homme au temple gris, demander? Ok, pas de problème, Mina, et pourquoi ne pas attendre et voir le docteur lundi? Oh, comme je le sais trop, tu poses des questions et pour savoir ce qui se passe, puis tu t'inclines ensuite, et ça se dit homme et ça veut s'appeler Sidi. Je me veux de t'en avoir parlé, avoue Mina en sanglotant de plus belle, cette fois-ci par dépit. Ça va, demain matin je te trouverai ce test de grossesse, lance Abdou, conscient qu'elle ne le lâchera pas maintenant qu'ils sont pris tous les deux dans la noirceur de la nuit. Je le veux avant d'aller à la fête de Nora, sinon mes nerfs ne tiendront plus, précise-t-elle. Avant la fête de Nora, promet celui-ci. Alors endors, mon ami. Comment ça, endors? C'est pour ce passage que je lis tout ça. Ce que ne dit pas l'histoire, c'est que ce couple, ficelé dans l'interdit, brava cette nuit-là les inhibitions d'une éducation réfractaire et combien récalcitrante devant les modes branlantes d'une modernité apparente. Mina est consciente d'avoir tiré le diable par la queue, d'avoir mis dans un moment de faiblesse à Abdou dans les confidences de ses angoisses, pour aplanir les difficultés et prévenir les gorges chaudes de son homme d'humeur ténébreuse et qui n'ont d'égal que son humour cynique, Mina met au service de son mari ce qu'elle croit déjà être ses dernières étincelles de jeunesse. Elle y met une telle passion, une telle folie, cessant tout d'un coup de s'économiser. Abdou, ne croyant pas en sa veine, déploie en toute sincérité son trop-plein d'énergie et frappe à coups de reins bien portés le bassin frétillant de sa Mina déchaînée. Autant de pieds de nez au lynchage orchestré, au nom de la vertu, des petites filles enfuies dans chaque femme vieillie sans avoir su se consommer.
Merci, merci Raja Wadili. C'est courageux, hein? Bravo. Alors on va finir, parce qu'il faut bien finir quand même, hein. Sinon on peut finir tout de suite sans qu'il passe, si vous voulez. Mais on va finir avec lui, avec Salah Ben Labed, que vous connaissez certainement. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, en commençant, il vient de sortir, de publier un nouveau livre, tout récent, hein, c'est ça?
Hier soir.
Et ce livre est là, il est disponible en exclusivité à la librairie Olivieri. Salah Ben Labed, c'est à toi.
Oui. Est-ce qu'il est là?
Je ne suis pas écrivain, non, c'est pas vrai. J'ai trouvé simplement ce procédé peu onéreux de déverser ma douleur après l'exil. Aujourd'hui, je vais vous demander donc d'ouvrir votre livre à la page numéro 1, s'il vous plaît. Et je vais vous en lire 2 ou 3 extraits pour ne pas divulguer, bien sûr, l'intrigue. L'introduction. Le journaliste a apporté des fleurs. Il semble gêné par ce fardeau peu professionnel qu'il porte pourtant comme un trophée dans les couloirs de l'hôpital. Il est si fier que sa compatriote, une grande dame de la littérature, malade et mourante, ait accepté de raconter son long exil en France, ce pays qui l'a longtemps retenu mais dont elle vient de se détacher. Il ne s'attend pas à écrire un best-seller avec ce qu'elle va lui offrir, mais espère au moins un bon essai sur les migrations du siècle qui débute. Il connaît bien lui-même le goût caustique de l'exil, son coût élevé et ses intérêts usuraires. Lui aussi a subi son grand dérangement. Elle avait demandé que l'infirmière la maquille légèrement, même si elle savait qu'elle n'allait pas être filmée. Mais peut-être voulait-elle simplement ressembler à sa jeunesse. Elle a fait un signe et il a appuyé sur le bouton du magnétophone. « Ne me dites pas que vous avez fait ce voyage dangereux tout simplement pour m'entendre parler d'exil. Moi qui suis si proche de celui dont on ne revient jamais, d'autant plus que je ne croyais pas devoir vivre l'exil, même si ma famille considérait ainsi ce qui était à mes yeux une déportation. Vous êtes donc averti, ce n'est ni un essai ni une thèse sur l'exil que vous devez attendre de moi, mais de vagues réminiscences d'une longue absence. Et je vous préviens, cela va m'être très pénible, car à l'approche de la fin, lorsqu'on n'avance plus qu'en âge, la vie se réduit à un chapelet de réjouissances débridées et le cerveau à une boîte de souvenirs approximatifs au goût caustique. D'ailleurs, ne disait-on pas chez nous « ce qui est passé est mort » ? Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, car les souvenirs sont comme ces faméliques chiens de nomades qui poursuivent votre véhicule jusque très loin de la tente dont vous avez osé approcher l'entrée. Personnage, le mari. Juché sur sa chaise, fier de cette ascension, mais déjà titubant, sans personne pour se porter à son secours et lui éviter la chute finale, un verre vide à la main que nul ne tentait de remplir tant il tremblait de ses membres, il annonçait un texte assurément préparé, mais dont il avait visiblement oublié le plan. Je me suis retenu d'intervenir, même lorsque, rendu inaudible par sa langue lourde et pâteuse, il avait continué son discours embrouillé jusqu'à son sujet depuis peu favori, la question de la colonisation de l'Amérique par les Anglais et l'attitude barbare de ces colons qui avaient provoqué la disparition des valeureux amérindiens. Puis, par un raccourci que seule l'ivresse permet, il en était venu à l'œuvre civilisatrice de la France en Afrique. « Nous n'avons pas été aussi barbares. Nous n'avons pas commis de génocide. Mieux, nous les avons sortis de la barbarie. » Il avait marqué une pause comme s'il attendait des applaudissements avant de reprendre dans leur silence embarrassé. « Nous leur avons donné une place à nos côtés, les mêmes droits. Ils vivaient avec nous dans les villes que nous avons construites au lieu et place où il n'y avait que des campements miséreux. Nous en avons fait nos égaux. » Et blablabla. Un bref instant, nos regards s'étaient croisés et il avait marqué un temps d'arrêt pour, sur le ton de la complicité alcoolique, appeler mon témoignage. « Souhaite ! Dis-leur donc que c'est vrai à ces planqués qui n'ont pas connu de guerre. » Puis, me montrant du doigt à ceux qui me tournaient déjà le dos, il confirma « Souhaite peut en témoigner. » Par honnêteté, étant partie prenante, je n'ai rien dit. D'ailleurs, comme toujours lorsqu'il était ivre, il prononçait mal mon prénom, qui prenait alors un tout autre sens et je ne m'y reconnaissais pas. « Souhaite, souhaite. » Le père. De ce que mon père disait à son petit-fils engoncé ce jour-là dans un uniforme de père missionnaire en répit, j'ai retenu quelques réflexions. Et puis, un jour, tu te dis, c'est trop tard, j'aurais pu, je peux plus. Alors, couché dans ton lit, rêvant encore de piquer des étriers, tu vois droit devant toi la faim qui t'aspire dans une chevauchée exagérée. Alors, effrayé ou impatient, tu fais ton bilan et tu t'y retrouves perdant. Cet autre aussi, à propos de l'Allemagne, il racontait qu'un certain hiver, l'Allemagne lui avait paru affreuse et minable, ruisselante des larmes que l'on peut croire heureuses de ces jeunes prostituées qui ont un jour de régiment trop subi d'assaut, mais qui ont amassé une petite fortune. Pourtant, dans ce pays malheureux, il y a, au bout d'un sentier au persil, une petite auberge dans la baie du Salon, donne sur le matin heureux d'un paysage infini, aussi éblouissant qu'une nuit d'amour avec promesse de retour. Et il avait ajouté, tu peux aller où tu veux, vivre dans un palais ou une petite masure. Le seul bonheur, tu m'entends, le seul bonheur que tu transportes ne tient que dans le petit mouchoir froissé où quelqu'un a pleuré le jour de ton départ. Avait-il noté que je suivais la discussion. Il avait changé de ton et de sujet. Il fallait voir le Vietnam du côté de l'abbé. Tu sais, au matin, quand les cadons se tontuent, il y a de la musique qui s'élève dans la buée des souffles coupés. Et toi, tu as envie de rester là, allongé sur le dos, brisé d'avoir trop rampé, à regarder cette perspective vers le ciel calme que te font ces arbres centenaires dont je n'ai pas retenu les noms. Tu peux alors découvrir la paix de l'âme, pour peu que tu évites de détourner ton regard vers les cadavres explosés, fauchés dans la même position que toi, et qui ne peuvent apprécier les chants des oiseaux maintenant rassurés. Plus tard, lorsque je l'avais remercié pour ses conseils à mon fils, il avait fait une moue et qui ressemblait à du dépit, et m'avait expliqué en chuchotant « C'est cette calamité de l'âge qui nous rend incapables d'agir qui fait que nous devenons moralistes pour donner l'impression d'être encore utiles. » Le retour. Cabral m'avait ensuite accompagné jusqu'au métro, marchant lentement pour s'habituer à sa nouvelle canne, celle-là même qui avait appartenu à son frère défunt. Devant la bouche ouverte de la station, il m'avait encore posé la question « Viendras-tu ?» Et comme j'avais répondu distinctement « Oui », il avait relancé le jeu. « Tu peux encore réfléchir cette nuit et me donner ta réponse demain vers midi. Je serai devant le téléphone de l'hôtel. » Puis il avait ajouté cet argument insidieux. « Depuis quand n'as-tu pas vu ta sœur ?» Un pays oublié où j'avais vécu la misère, la tombe négligée de mes parents, une jeune femme demeurée, une fillette dans mes souvenirs et je ne sais quoi d'autre, ne suffisent pas à expliquer que j'ai dit oui à Cabral. Mais je l'ai dit. Peut-être le destin voulait-il boucler sa boucle. L'incendie qui avait consumé notre couple me faisait-il fuir plus loin? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas et j'hésite encore entre attirance des souvenirs ou la répulsion de mon présent d'alors. Mais je suis parti. Dans le métro, quelque chose comme un coin longtemps déplacé a bougé en moi pour se remettre en place. La douleur qui, depuis le divorce, m'empêchait de m'asseoir en paix pour fixer sereinement l'horizon, s'est tue. Le moteur qui bouillait naît dans ma tête aussi. La proposition d'un fantôme déguisé d'un vieil homme décédé venait d'entrebâiller une porte qui s'ouvrait sur un univers occulté. Au matin, nous avons aperçu le rivage. Je ne sais plus combien d'années plus tôt, depuis le pont du navire qui m'emportait vers la France, on m'avait confié à un vieil homme qui retournait vers son exil et qui m'aurait pris la main si je n'avais été une jeune fille. J'avais fixé dans ma mémoire l'image de la capitale qui s'éloignait alors et je l'ai trouvée inchangée. J'avais conservé le souvenir du blanc éblouissant des hauteurs de la ville et j'y mis la grisaille qui nous attendait au compte de la poussière qui se serait déposée durant l'éternité de mon absence. Une éternité que j'avais dépensée à m'imaginer que la vie dans ce pays désordonné, plus lente et moins excessive, allait me faire retrouver la jeunesse à la seconde même qui me verrait rejoindre mon passé. Jeune homme, ici je dois vous prévenir. Il faudra toujours rester vigilant avec la vie. Il y a pour chacun d'entre nous un moment précis où s'arrête l'avenir, à partir duquel il ne reste plus que le passé à ressasser. C'est le pic de la vie, celui dont on s'aperçoit que l'avancée ne sera plus qu'une descente. Celui où l'on cesse de regarder en arrière car on a perdu la naïve crédulité juvénile de pouvoir rebrousser chemin. On se découvre alors la même désillusion que la vigie qui, ne croyant plus au rivage promis, détourne sa lunette pour tenter d'apercevoir une ultime fois le pays disparu où il a été heureux. C'est l'instant tragique où l'on quitte l'oasis pour entrer dans son désert. Merci.
Salah Belabed, merci.
C'est moi.
Oui, c'est toi, mais il disait tout à l'heure en arrivant, il disait « je ne suis pas écrivain ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut lui accorder le titre quand même. Hein. Merci à Salah Belabed, Raja Al-Wadili, Hassan Ziani, Jamila Benhabib, Hassan Jamali, Sofia Ben Yahya, Zira Houfani et Mohamed Akoujane. Merci à tous et à toutes. Je vais céder la parole, bien sûr, pour terminer à Mourad, qui est le grand Manitou, hein, qui organise tout ça. Je voudrais quand même saluer, il va donner une conférence dans quelques jours, saluer Anouar Ben Malek qui est avec nous, qui est venu spécialement donc pour ce Maghreb du Livre de Montréal. Je lui ai demandé ça tout à l'heure, il a eu le temps de réfléchir, il peut nous dire deux mots quand même. Hein. Et puis après, ce sera Mourad, juste deux mots. Merci.
Bonsoir, merci de l'invitation qui m'a été faite. J'espère que vous n'attendez pas quelque chose de très intelligent de quelqu'un pour lequel il est 3 heures du matin. Donc voilà, je voulais vous dire mon bonheur d'être à Montréal. C'est la deuxième fois que je suis à Montréal. Et c'est une ville qui est très étrange parce qu'il y a une espèce de... Peut-être parce que je suis seulement de passage, mais une espèce de fraternité... Et puis de mélange assez étonnant pour moi de France et d'États-Unis en même temps, avec présence de communautés très différentes. Et en même temps, il y a une espèce de sentiment voilà, de gaieté. Et, voilà, je crois que je serais incapable de dire plus, je veux dire, à 3 heures du matin. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci, Anouar Ben Malek. Il est 3 heures du matin, c'est vrai pour lui, hein, mais c'est quand même un écrivain de son temps. Voilà. Alors, merci à tous et à toutes. Et voilà, donc, Mourad, que je ne présente même pas.
Hein. Merci à tout le monde, aux présents, aux invités, aux auteurs. Écoutez, il fait très beau, je suis très très content le fait que vous soyez tous ici. Et puis, ce que j'espère, c'est que vous avez découvert combien d'auteurs aujourd'hui. Alors lisez, et puis c'est en lisant qu'ils vont encore produire. Et puis, ils sont tous contents quand vous les lisez, ils produisent encore mieux. Et je vous dis que ça continue. Demain, on a une table ronde. Hein, à partir de 14h ici, on va parler de Camus, on va parler de Jean-Mourou Amrouche, on va parler de Yassine. Le lundi, il n'y a rien. Lundi, on prend un break. Le 6, c'est notre invité d'honneur que je remercie. Je sais, il est crevé. Mais on va vous lâcher dans quelques minutes. Et il sera avec nous et il aura le temps de ça, d'amorcer un petit peu le décalage et puis de parler, de faire des signatures. Et puis les livres sont là, les auteurs sont là, profitez. Et on fait notre clôture le 10 avril à la Maison de la Culture. J'ai une mauvaise nouvelle parce qu'il n'y a plus de place pour le groupe Amam. C'est les places qui ont été mises en vente, les 88 places sont toutes parties. Mais par contre, de 13h à 16h, vous pouvez voir de très très bons films. Ça se passe à la Maison de la Culture. Et merci encore, merci à tous qui ont aidé. Je sais que Rina, Isabelle, Nassar, tout le monde. Je m'excuse si je n'ai pas nommé tout le monde. Et puis, bonne soirée. Et puis, la musique continue. Et à demain, quoi.